Ce type de guide ne s'adresse pas en priorité à des gens en particulier, mais à tout le monde. C'est-à-dire à tous ceux qui auraient envie de voyager autrement et de découvrir un patrimoine religieux et spirituel.
Alors vous proposez non seulement d'aider vos lecteurs à découvrir le patrimoine religieux, mais aussi à vivre dans un environnement religieux et avoir des activités religieuses.
Alors c'est ça. Il y a plusieurs rubriques hein, dans ce guide, telle que rubrique annexe qui explique un peu ce que c'est que la vie religieuse. Je recense 427 lieux qui sont des lieux de halte spirituelle, où ça peut être des monastères, des couvents, où l'on peut effectuer des retraites. On donne un petit peu d'histoire. Et puis une géographie spirituelle, donner l'identité de la communauté, comment elle vit. Les modes d'hébergement, parce qu'on peut faire une courte halte, comme une respiration, pour simplement assister à des offices. Hein. Là, je donne les horaires des offices. Ou alors, parfois, on peut s'arrêter plus longuement quand c'est possible, et je dis si c'est possible.
Est-ce que vous avez pu bénéficier de la collaboration des autorités religieuses des sites choisis, ou y a-t-il eu des réticences de leur part?
Je dirais que contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus l'ordre est ancien, et plus il est, j'irais, cloîtré, et plus j'ai rencontré de bonne volonté. Peut-être dans les communautés nouvelles, je ne sais pas s'ils sont victimes de leur succès, mais j'ai parfois eu moins d'enthousiasme ou de bonne volonté. Hein. Ouais.
Alors depuis quelques années, on assiste à un réel engouement pour le tourisme spirituel. À quoi est-il dû à votre avis?
En tout cas, dans les pays occidentaux, il y a un manque de culture religieuse et d'éducation religieuse. De fait, il y a un vide. Et je crois fondamentalement que tout au fond, l'homme est un animal religieux et que particulièrement en Europe, il a la conscience ou alors parfois s'est plongé vraiment dans son inconscient. L'homme occidental sait tout au fond de lui que l'Europe a quand même des fondements chrétiens. C'est pour ça que ce vide, bah, il essaie de le combler en se tournant vers les grands lieux de culture religieuse et de vie spirituelle.
Et le contact avec la beauté, avec la symbolique chrétienne peut faciliter la méditation, la prière.
C'est magnifique, hein. La plupart des lieux recensés portent à la prière, hein, du fait même de leur architecture. Ils sont conçus comme ça et pour ça, oui. Et puis, en fait, on est dans une société qui va très vite et où il y a beaucoup de bruit. Partout, il y a de la musique, dans le moindre magasin, dans les transports en commun. Enfin, c'est partout le bruit, le téléphone portable, la télévision, la radio. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de retrouver le calme, le silence, une certaine sérénité pour réfléchir.
Dernière question, est-ce que vous avez eu des échos? Est-ce que ça marche?
J'ai eu surtout des retours via les communautés religieuses qui ont été très contentes. Et il faut savoir que la plupart des monastères, des couvents vivent du fruit de leur travail. Et quand il y a une petite boutique à côté qui vend justement le fruit de ce travail, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Et en plus, il y a aussi un engouement pour ça, parce qu'évidemment, ce sont des recettes de grand-mère, des recettes immémoriales. Et puis on sait très bien qu'on y fait des choses particulièrement bonnes. Hein. Par exemple, en Belgique, on va à l'abbaye Notre-Dame-de-Lèves et évidemment, on trouve la bière, la fameuse bière Lèves. Il y a beaucoup d'endroits où on fait des choses merveilleuses, hein, de la confiture, des tisanes, des onguents, enfin toutes sortes de choses.